La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Céline Géraud.
Allez, restez avec nous, on est bien, on est dans le studio avec Jacques Serret du service politique d'Europe 1, Frédéric Dabi, directeur de l'Institut IFOP, et Stéphane Albouy, directeur de la rédaction du journal du dimanche. Alors à la une de Paris Match cette semaine, Joe Biden, le président des États-Unis qui monte au front pour soutenir l'Ukraine, et page 51, il y a cette enquête de Sophie Desdeserts sur le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, le bras droit du chef de l'État, la sentinelle invisible, extrêmement influente, et c'est l'un des rares collaborateurs, Jacques Serret, qu'Emmanuel Macron est embrassé lors de la cérémonie d'investiture le 7 mai dernier. Beaucoup souhaitent son départ, mais il devrait rester.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est cette grande photo dans Paris Match où on voit le chef de l'État embrasser Alexis Kohler, lui faire la bise. C'est son bras droit, c'est l'homme de l'ombre, c'est le fidèle parmi les fidèles. Il était avec Emmanuel Macron à Bercy déjà auparavant, il est arrivé à l'Élysée avec lui. Emmanuel Macron, ce qu'on peut lire dans cet article, l'appelle son Alexis. Et dans cette période, par exemple, où tout le monde attend de connaître le nom du futur Premier ministre, il y a certainement que 3-4 personnes tout au plus au courant aujourd'hui, à savoir l'identité, déjà le ou la première concernée, Emmanuel Macron, Alexis Kohler, Brigitte Macron et Jean Castex, mais ouais, ça ne va pas au-delà.
C'est le plus mormon des mormons, pour reprendre l'expression justement de cette enquête.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faisait partie de cette toute petite équipe au départ qui a cru en Emmanuel Macron alors qu'il était jeune ministre de l'économie, où beaucoup parlaient de cette bulle Macron qui allait éclater durant la campagne de 2016-2017. Il y a cru, c'est vraiment le fidèle parmi les fidèles, et beaucoup sont partis dans cette petite équipe. Sibeth Ndiaye, Ismaël Emelian, mais lui est resté, il est toujours là, et il pourrait bien encore rester pour le prochain quinquennat.
Stéphane Albouy du JDD, c'est lui qui a organisé la campagne jusqu'au premier tour. Une stratégie avec ses fameuses apparitions un peu mini-palistes, c'est lui. Il a su se rendre indispensable ?
Oui, il est indispensable, et je crois qu'il y a un autre adjectif, c'est qu'il est résistant. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'enfer de Matignon, l'enfer du sillage d'Emmanuel Macron, c'est quelque chose, on le sait, il faut suivre le rythme. Et dans le départ de son premier cercle, de tous les collaborateurs qu'il avait au début, ces fameux mormons, beaucoup sont sortis essorés quand même de cette séquence. Pourtant, pour la plupart des gens entraînés au travail et à un bon rythme. Et Alexis Kohler a aussi cette capacité vraiment à suivre le rythme et parfois même à relancer en étant juste à côté d'Emmanuel Macron. C'est cette proximité aussi qui suscite beaucoup de jalousie, on en a parlé déjà.
Oui, parce qu'il est le seul, finalement, Jacques, vous l'avez dit, à avoir tenu 5 ans. On le surnomme le vice-président, la vigie, le Waze du président.
Mais la vigie, c'est ce nom. C'est-à-dire que Sophie Desdeserts le raconte très bien dans cet article. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille tout le temps, ou presque. Ce sont des journées de 18 heures par jour. Il est le soir, il rentre pas chez lui avant 2 heures du matin.
Donc, il a une famille qui habite à Strasbourg, je crois. Enfin, voilà, il est
originaire de Strasbourg. Voilà, il a des enfants à Strasbourg. Mais c'est quelqu'un, voilà, c'est un boulot énorme, autant voire plus que le président en termes de charge, de rythme de travail, de rendez-vous accumulés à l'Élysée. C'est un travail.
Il sacrifie tout, y compris
épuisant.
Ses enfants qu'il n'a pas vu grandir, semble-t-il.
Oui, ce que je trouve intéressant, je n'ai pas eu cette enquête, mais je l'ai parcourue rapidement. On parle de quelqu'un qui est le cerveau droit du président, la vigie des vigies, le président bis. Les Français ne le connaissent pas. Il ne s'est quasiment, je parle sous votre contrôle, jamais exprimé dans les médias. Ils l'ont vu annoncer. Voilà. La nomination d'Edouard Philippe, de Jean Castex, et est-ce que ça pose un problème démocratique? Je ne le dirais pas comme ça, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On a connu des secrétaires généraux de l'Élysée, très proches du président de la République, mais qui après se sont engagés, ont été plus visibles, sont devenus ministres, Claude Guéant, Jean-Louis Bianco, sont restés dans l'ombre et sont partis, François-René Lemas ou François Hollande, si je ne me trompe pas. Là, on voit qu'il est... Il est nommé pour le deuxième mandat, pour le second mandat du président de la République. Est-ce que il va rester dans cette posture de
sentinelle
secret,
invisible, ouais.
De sentinelle invisible, ou est-ce que parce que le quinquennat va avancer différemment, il va être plus visible et il va devenir un nom et un visage familier pour les Français, comme l'avait été Claude Guéant très vite lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Stéphane Albouy, JDD.
Oui, à plusieurs moments, il a été question quand même d'un ministère. On a beaucoup parlé de Bercy. Il en vient, il y travaillait déjà avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il le souhaite, est-ce qu'il ne le souhaite pas? Ça, il faut être dans la tête d'Alexis Kohler. Ça peut arriver. Mais aujourd'hui, là où il est, beaucoup disent qu'il a plus de pouvoir que la plupart, voire tous les ministres, et que dans certains arbitrages, y compris financiers, y compris lorsqu'il s'agit de Bercy, il peut emporter le morceau sur certaines décisions.
C'est lui, me semble-t-il, hein, Jacques Soré, qui est allé voir Nicolas Sarkozy pour ouvrir la brèche, la discussion, il s'est occupé de ça aussi.
Oui, notamment, c'est-à-dire que toutes ces discussions un peu sensibles, que ce soit avec d'anciens présidents, mais aussi des grands responsables d'entreprises du CAC 40, c'est lui qui les rencontre quand Emmanuel Macron ne peut pas, ou quand il faut annoncer pas forcément des bonnes nouvelles, entre guillemets, c'est aussi lui qui fait le sale boulot à la place d'Emmanuel Macron parfois. Et il y a un surnom et qui est noté dans cette enquête de Sophie Dédézère, c'est-à-dire que le surnom d'Alexis Kohler, par certains dans la Macronie, c'est AK-47, comme la Kalash.
Ah oui.
Donc voilà.
C'est violent.
C'est un bourreau de travail efficace qui peut parfois paraître sec. En tout cas, lui essaie de s'enlever cette image pas forcément agréable. Mais oui, clairement, il a plus de poids que bon nombre de ministres.
Il agace aussi, hein, il ne fait pas l'unanimité, notamment Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Alain Minc souhaitent son départ. Il le considère comme la quintessence de la technocratie.
Ça crée évidemment des jalousies dans le microcosme. Quelqu'un qui a autant de pouvoir aux côtés du président, qui est à côté du président à longueur de journée à l'Élysée, évidemment qu'il y a des rancœurs par certains, d'autres qui ont aussi des ambitions.
Et y compris pendant les entrevues avec les premiers ministres où forcément...
Et je crois qu'Edouard Philippe déclare avoir dit que d'avoir eu que 3-4 entretiens en face-à-face réel avec Emmanuel Macron, Alexis Kohler est toujours là.
Oui, parce que c'est lui qui avait vendu, entre guillemets, le profil d'Edouard Philippe à Emmanuel Macron. C'était un ancien copain de
Sciences Po. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez inédit sous la Ve République. Maintenant, c'est vrai, le fait qu'il ait engagé un dialogue, une forme de négociation avec Nicolas Sarkozy donne peut-être des pistes sur un rôle différent lors du second mandat, c'est-à-dire plus politique, pas seulement le super techno, celui qui tranche les questions, qui fait le sale boulot à la place du président. On pourrait avoir des surprises. Est-ce qu'il fera tout le mandat comme le premier? Parce que c'est aussi une autre question qui se pose. Pour l'instant, on est sur une incertitude.
Stéphane Albouy,
ouais, dans le poids politique, justement, ou dans celui qu'on lui prête de plus en plus, à la recherche aujourd'hui du ou de la Premier ministre, il y a des noms qui sortent, et dans les noms qui sortent, comme par hasard, vous avez Audrey Azoulay, vous avez Agnès Pannier-Runacher, qui sont des gens qui étaient dans la même promo de l'ENA qu'Alexis Kohler. Donc parfois même une proximité, même ancienne, avec Alexis Kohler, peut laisser penser à certains que ça peut faciliter l'accès à certaines fonctions.
Voilà. Et notamment, il y a eu Véronique Bédaille, qui est l'actuelle directrice générale de Next City Immobilier, qui a été consultée pour devenir Premier ministre. Ce n'est pas avec Emmanuel Macron qu'elle a rendez-vous, c'est avec Alexis Kohler, dans son bureau, à l'Élysée. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, elle a refusé le poste, mais c'est dire, au final, le poids qu'a Alexis Kohler aujourd'hui à l'Élysée.
Et c'est un personnage qui évolue au fil du temps, hein, Stéphane Albouy. Il est plus politique, on l'a dit, il est allé rencontrer Nicolas Sarkozy, hein, pour lequel il avait pourtant refusé de travailler par le passé. Voilà, il fait des concessions, voilà, il s'arrondit, il est dans le cercle très fermé, hein, effectivement, proche de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron. Mais il est indispensable, rigoureux, bosseur, il range la maison, c'est ça, c'est lui qui le dit. Il y a 900 salariés à l'Élysée, c'est lui qui s'en occupe. Il est partout.
Alors, vous avez employé le terme, il s'arrondit, je ne sais pas. À titre, je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas s'il s'arrondit. Je ne sais pas si on ira jusque-là. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est la cheville ouvrière, c'est un rouage indispensable. Est-ce qu'il va durer encore 5 ans? Parce qu'il y a la question, tout à l'heure je disais qu'il était très résistant, est-ce qu'on tient 10 ans à ce poste? Je ne sais pas. Ce serait une première. Déjà là, en l'état, c'est une très belle performance de sa part. Après, on lui a reproché, dans les reproches et les petites jalousies qu'on a entendues, il lui a été reproché plusieurs fois dans cet aspect techno qu'il a, d'être un petit peu en déconnexion avec les Français. C'est peut-être, ça a été identifié peut-être comme un de ses points faibles à certains moments et comme des sujets de discussion parfois un peu houleux avec le président lui-même. D'ailleurs, c'est rappelé dans le
notamment
sujet.
Notamment sur la crise des Gilets jaunes,
absolument,
c'est ça?
Absolument, absolument. Et ça a été peut-être un des petits moments où il y a eu un peu de friction, parce qu'ils se disent les choses très franchement avec Emmanuel Macron. Et c'est sans doute un des points qui a un petit peu, par coincé. Moment, posé problème.
Et ce que dit Stéphane a d'autant plus d'importance, c'est que ce qui a été le point faible, pour ne pas dire le boulet, du président Macron pendant son premier mandat, ça a été le sentiment qu'il était déconnecté des préoccupations des Français, qu'il connaissait mal le pays, beaucoup plus que le soupçon de mépris ou d'arrogance. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où Édouard Philippe était à l'hôtel Matignon, il y avait une vraie proximité, un vrai point de vue entre le directeur de cabinet d'Édouard Philippe, Benoît Ribadeau-Dumas, qui lui aussi, quelqu'un de très efficace, qui travaille jour et nuit, qui a été vraiment d'une aide extraordinaire pour Édouard Philippe, mais qui, à qui on prêtait aussi un côté techno, ne connaissant pas la réalité du pays. Et n'oublions pas, les gilets jaunes, c'est la taxe sur les carburants, et c'est aussi les 80 à l'heure imposés par Édouard Philippe et sans doute soutenus par Alexis Kohler et Benoît Ribadeau-Dumas.
Et ce que vous dites là, c'est ressenti vraiment sur le terrain. Jacques Seret, vous l'avez suivi, évidemment, le président tout au long de sa campagne. Elle a été très courte. Et quand il est retourné sur le terrain, au contact des Français, ça a parfois été violent.
Oui, parce que après la problématique du pouvoir d'achat durant la campagne, voilà, a imprégné tous les débats. Donc, en effet, cette question de déconnexion, oui, c'était là. Et en même temps, certes, Alexis Kohler peut paraître, aux yeux de certains, déconnecté, mais en même temps, c'est ce qui est aussi précisé dans cet article, quand on passe 18 heures à l'Élysée enfermé dans son bureau, on peut, entre guillemets, pas tout faire et prendre le pouls du pays en même temps. Donc c'est un peu aussi à mettre au crédit d'Alexis Kohler. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va rester, partir, parce que ça va être aussi un vrai chamboulement pour le chef de l'État, s'il y a départ d'Alexis Kohler, dans la manière de gérer l'État, à qui il peut confier les manettes, ça veut dire redonner sa confiance, mais à quelqu'un d'autre de son entourage. Alors, il y a quelques noms qui circulent pour le secrétariat général.
Qui par exemple
l'Élysée, par exemple, des gens comme Julien de Normandie, qui aussi fait partie des très
aussi,
proches.
Qui est un mormon qui est resté, lui.
Qui fait partie de ces rares mormons qui sont
surnommés le jumeau, carrément.
Voilà. Carrément.
Donc, dans le cas où Alexis Kohler partirait pour un ministère. Après, le plus probable dans cette séquence, et ce qui semble se dessiner, c'est que Alexis Kohler reste à son poste, en tout cas pour le moment.
Pour le tuilage, toujours est-il
voilà,
peut-être
pour, au final,
un peu
pour
plus.
Cette transition, éventuellement, s'il ne fait pas le quinquennat, s'il ne s'engage pas dans le quinquennat, c'est au moins rester là dans cette période avant l'été, avant la prochaine rentrée, permettre de faire cette transition des législatives, l'avant, l'après. Installer un peu le lancement du second
projet.
Quinquennat Macron pour ensuite éventuellement faire une transition et lâcher la main.
Frédéric Dabi.
Oui, c'est vrai que c'est un scénario possible. On l'a dit plusieurs fois, mais Macron aime déjouer les scénarios déjà écrits. C'est vrai que son départ du secrétaire général serait peut-être pas un coup de tonnerre dans l'opinion, loin de là.
Mais ce serait un signal.
Un léger coup de tonnerre médiatique, mais dans l'écosystème de la Macronie, oui, ce serait un véritable coup de tonnerre et le symbole très fort que le deuxième mandat, ce second quinquennat, n'aura rien à voir avec le premier. N'oublions pas à quel point, pour le François Mitterrand de 88, le Jacques Chirac de 2002, le deuxième mandat a été très compliqué.
En tout cas, ils sont liés véritablement, hein, ces deux hommes, on l'a dit. Je lis un extrait de cette enquête de Sophie Desdéserts qui est assez édifiant. Colère n'ignore rien des jeux de cour et des fantasmes qu'il suscite. Macron s'en amuse, toujours ravi de déclencher des jalousies, de découvrir des SMS enflammés contre ce type, entre guillemets, qui contrôle tout et préempte l'entourage des nazes qui ne te font pas d'ombre. Il laisse dire et courir des rumeurs, y compris celle d'une nomination de son secrétaire général à Bercy. Lui sait où il veut son Alexis et ce qu'il lui doit. Voilà. Mmh. En gros, voilà, on sent que vraiment... C'est pour ça que son départ serait pour le coup assez dur à encaisser pour Emmanuel Macron, parce que c'est pas son jumeau, mais voilà.
Non, alors c'est peut-être son imprimé en négatif, et c'est ce qui explique aussi peut-être une forme de complémentarité. Alors, le point commun, ça, on l'a dit, c'est cette capacité de travail et de mobilisation intellectuelle 24/24 quasiment. Mais autant Emmanuel Macron est quelqu'un qui joue du contact avec les autres, qui aime quand même, parce qu'on parle de sa déconnexion, mais c'est quelqu'un qui aime aller au contact des Français,
absolument,
qui sait très bien le faire. Le grand débat l'a parfaitement illustré. D'ailleurs, c'est assez amusant, mais Alexis Kohler ne croyait pas au grand débat. Pour lui, c'était un peu du temps perdu. Et dans un nouveau mandat et dans un nouveau quinquennat où Emmanuel Macron met en avant la consultation, si Alexis Kohler reste là, et ça a l'air d'être le cas, il va falloir qu'il s'adapte aussi à ça, parce que visiblement, il veut beaucoup plus consulter. En tout cas, c'est ce qu'il a promis.
C'est ce que je disais quand il doit s'arrondir, c'est-à-dire qu'il doit se modifier génétiquement, un peu presque, parce que pour lui, c'est des codes qu'il ne connaît pas.
Si le président change, il va devoir changer.
Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment la tendance, quoi. C'est-à-dire, s'il décide de rester, il va falloir qu'il se... qui se change, lui, pour s'adapter aux nouveaux codes.
Je pense qu'il n'aura aucun mal à ça. En tout cas, il a su s'adapter à Emmanuel Macron. Certes, il se connaissait, mais il est rentré dans cette fonction de secrétaire général. Et en tout cas, il aura marqué ce poste de secrétaire général, même dans les... Quand on regarde en arrière, tout ce qui... On ne peut pas dire qu'il n'a pas été à la hauteur du poste, en tout cas.
Non, c'est ça.
Et avec Emmanuel Macron, ils ont en commun la nécessité de théoriser la pulvérisation des chapelles. Là aussi, c'est expliqué dans cette enquête. Donc, on pense à la réforme de l'ENA, par exemple, ou la suppression des corps préfectoraux, préfectoraux et diplomatiques.
Oui, alors c'est des décisions qui ont été vues plus comme des symboles que comme des mesures qui avaient un impact concret sur la vie des Français. Ça n'a pas beaucoup imprimé. Il y a eu aussi, entre les deux tours, tout simplement la suppression du corps diplomatique. Hein. Oui. Ça a été quelque chose qui a créé un très fort émoi, mais pas dans l'opinion publique. Mmh. C'est vrai qu'ils ont... Ils fonctionnent en circuit tellement fermé que oui, tout corps intermédiaire, au sens large, peut être vu comme quelque chose d'hostile, quelque chose avec lequel il ne faut pas traiter. Il ne faut pas oublier que ce qui a fait mal au premier fait quinquennat, ce qui a été dit par aussi bien des opposants à Emmanuel Macron que des proches, c'est cette mise à distance des corps intermédiaires. Là aussi, ça sera intéressant de voir comment les choses se passeront avec les maires, avec toute une série d'institutions et d'associations pendant ce deuxième mandat.
Et vous retrouvez évidemment l'intégralité de cette enquête dans le Paris Match de cette semaine, en kiosque, non, dans tous les bons kiosques, et c'est à la page 51. Merci beaucoup à vous quatre. C'était un plaisir de vous avoir ce soir, juste après le journal d'Hélène Zélani. Je recevrai Chloé Morin, politologue, et le député Les Républicains Julien Aubert. Et la semaine prochaine, vous retrouvez Pierre de Villeneuve, bien sûr.
Plaisir.
À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Céline Géraud.